Bonjour, mesdames et messieurs. Moi, j'ai une question à vous poser. Et après cette truc-là, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on devait mettre en place pour que cette rêve se réalise. Merci.
Alors, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre à ma gauche, là.
Oui, moi, je suis Augusta Epagna, coordinatrice de la Dynamique Unitaire Panafricaine. C'est une organisation qui réunit 23 organisations africaines d'une vingtaine de pays différents du continent et des organisations de différentes natures, politiques, associatives, etc. Et avec pour perspective, effectivement, de rompre avec l'impérialisme et de construire une Afrique nouvelle, panafricaine, une Afrique unie sur le plan politique, un peu comme Nkrumah l'avait imaginé en son temps, c'est-à-dire véritablement une Afrique au service des peuples véritablement en rupture avec le modèle qu'on nous impose depuis des décennies. Alors, je voulais aussi rappeler que lors des élections présidentielles françaises, nous avions eu à lancer une campagne en interpellant les candidats à la présidentielle française, essentiellement de gauche, et en leur demandant de participer à une réunion publique que nous avions organisée, où Lutte Ouvrière avait joué le jeu et un camarade de Lutte Ouvrière était venu nous dire ce que serait la politique africaine de Lutte Ouvrière si son candidat effectivement avait été élu. Et on vous en remercie, hein, parce que beaucoup d'organisations n'avaient pas répondu, mais quelques-unes l'avaient fait et vous en faisiez partie. Juste un petit mot pour dire que dans son intervention, c'est vrai que le camarade a fustigé, à juste raison, hein, les organisations petites bourgeoises qui ne sont pas véritablement en rupture avec le système capitaliste. Bon, je pense qu'en même temps, on ne peut pas aller plus vite que la musique toujours, parce qu'au niveau du développement des forces sociales et aussi des contextes qui sont les nôtres sur le continent, à savoir qu'on ne laisse pas, il n'y a pas de liberté d'expression, liberté de s'organiser, de liberté de se réunir, etc. C'est un peu compliqué de construire dans ces conditions-là des partis révolutionnaires, ce n'est pas toujours simple. Autre aspect, c'est qu'il y a eu... Oui, j'arrête.
Tu peux conclure rapidement.
Ouais, d'accord. Bon, il y a eu aussi quand même le Parti communiste soudanais, qui était un des plus importants partis communistes, qui a été complètement abandonné à son sort et qui a été liquidé politiquement, et abandonné à son sort de tous, hein, de la part de tous. On a été aussi dans des conditions parfois difficiles où la solidarité internationale ne s'est pas terriblement manifestée, quoi.
Il y a quelqu'un d'autre là, et puis après tu réponds.
Je me demande comment on fait pour mobiliser des gens qui sont juste, la majorité des populations sont juste préoccupées par se nourrir. Moi, c'est ça qui me pose problème, en fait, dans votre intervention. Je me dis, mais comment on va faire juste pour les intéresser à la question de, c'est pas mon assiette, c'est mon assiette d'abord, en fait. D'abord, manger. Ils sont préoccupés par des besoins alimentaires, en premier. Donc, quel type de programme on peut mettre en place pour que les gens donc, sortent de cela, arrivent à émerger, et en plus aussi sortent des fausses divisions qu'ils ont entre eux, c'est-à-dire de religion, d'ethnie, de je ne sais pas quoi. Voilà, c'est tout.
Alors, il y a une dernière intervention, et puis après, le camarade répondra.
Bonjour, merci à vous. Moi, ma question est la suivante. Comment s'organiser face à la répression militaire lorsque les ouvriers manifestent? Je parle du Gabon précisément, parce qu'en fait, quand ils organisent des luttes au niveau de leur entreprise, on prend leur nom et les militaires se ramènent et après, ils se retrouvent en prison. Merci.
Donc je laisse le camarade répondre.
Alors, je ne vais pas forcément répondre dans l'ordre des questions, mais déjà, sur le fait qu'effectivement, les gens soient préoccupés au quotidien de nourrir les enfants, de trouver la pitance, etc. Ben, en fait, moi, c'est ça qui va être le moteur de la révolte. C'est ça, en fait, qui va pousser... quand on n'arrive pas à faire donner à manger à ces gamins, quand on ne s'en sort pas, quand il n'y a plus d'avenir, et ben, c'est là, en fait, que la révolte éclate. Et en réalité, il y en a des révoltes. Il y en a. Vendredi, il y a eu une grève dans une sucrerie en RDC. Ils ont brûlé l'avion du patron. Alors, je ne sais pas s'ils vont réussir. Eux, ils demandent l'application du SMIC. C'est 10 dollars par jour. Le patron, il leur donne 2 dollars par jour. Eh bien, les gars, ils ont commencé à engager le combat. Et s'ils l'ont fait, ben, c'est sûrement qu'à un moment, quand tu as 2 dollars par jour, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te battes. Et nous, on a cette confiance dans cette capacité. Et quand les préoccupations que tu avais, camarade, sur les fausses divisions, eh bien, ça, évidemment... On les partage aussi, et c'est quand les travailleurs se mobilisent, quand ils se défendent, que, y compris, ces divisions, elles tombent. Quand on va se mobiliser ensemble, les gars dans la sucrerie au Congo, il y en a peut-être un qui vient de quel coin du Congo, de tel autre, il y a peut-être un Malien, peut-être qu'ils ont eu des problèmes à certains moments, mais quand ils engagent le combat contre le patron, et ben nous, on est persuadés que c'est là que les préjugés, les divisions tombent. Alors, par rapport à la question sur le panafricanisme, alors il y avait beaucoup de choses. Nous, en fait, déjà, en fait, on n'a pas de politique africaine. On a une politique pour les travailleurs. Et que ce soit ici, en Afrique, pour nous, il n'y a qu'une seule classe ouvrière. Et c'est une façon de raisonner qui est extrêmement différente. Nkrumah, en réalité... Son problème, ce n'était pas que les travailleurs prennent le pouvoir, y compris ses dirigeants panafricains. Pendant tout un temps, il niait l'existence des classes sociales. Il voulait la gommer. Ça, c'était y compris un héritage du stalinisme. Niobe, Sékou Touré, on les a formés en disant qu'il ne fallait pas que la classe ouvrière elle prenne le pouvoir, parce que c'était trop dangereux, vous comprenez, parce que le pays n'était pas assez développé, parce que la classe ouvrière... Ça, c'est les staliniens qui ont appris ça. Et du coup, nous, ben, l'idée qu'on a, c'est pas du tout que ça vienne une Afrique des peuples, la seule vraie Afrique, mais le seul monde, ça sera celui des travailleurs, celui où le jour où les travailleurs, la classe ouvrière, y compris en entraînant les paysans pauvres, en entraînant tous ceux qui vivent de petits boulots, ils prendront le pouvoir, ils commenceront à décider eux-mêmes. Et ça, c'est pas une chimère. Alors évidemment, quand on a dit la liberté d'expression, le fait de pouvoir s'organiser, le fait que l'armée puisse réprimer, comme tu disais au Gabon, évidemment c'est un problème. Mais ça, les travailleurs, on a des exemples qui montrent qu'on peut les résoudre. Et la révolution russe, elle a quand même montré ça. Car s'il y avait un régime dictatorial, impitoyable, sans aucun droit démocratique, c'est bien la Russie du tsar. Et les travailleurs, ils sont organisés. Ils ont fait des partis clandestins. Et c'est ça que nous, on veut revendiquer. Alors, on n'a pas de leçon, on n'a pas de solution. Moi, je ne sais pas ce qu'il faudra faire au Gabon ou dans n'importe quel pays. Mais nous, notre confiance, on la met dans les travailleurs. Et que les travailleurs, ils ont la capacité à se défendre, à s'organiser. Et y compris à faire reculer et à battre toutes les armées du monde liguées contre eux. Parce que ça a été ça, la révolution russe. Et demain, si on unifie le continent en Afrique, ça se passera comme ça, par la révolution. Ça ne se passera pas par en haut, comme les panafricains en ont rêvé longtemps, en faisant des accords, en supprimant des frontières. La seule vraie révolution, la révolution française, la révolution russe, elles ont unifié un pays, l'Union soviétique. Et c'est par ces méthodes-là qu'on pourra y arriver. Si les travailleurs, ils chamboulent tout ça et qu'ils foutent en leur cet ordre social pourri. Alors pour finir sur par quoi, comment mettre en rêve ce rêve en place, nous on pense que c'était la conclusion de l'exposé, qu'il faut se battre pour implanter les idées marxistes, les idées communistes révolutionnaires partout où on est dans la classe ouvrière. Et que malgré la domination impérialiste, le pillage, l'exploitation, on a beaucoup, énormément de raisons d'être optimistes. La classe ouvrière, elle n'a jamais été aussi nombreuse sur toute la planète. On a des liens entre nous de partout. Et surtout, on a un poids dans l'économie. Alors, on ne sait pas où c'est que ça va exploser. ça sera peut-être en Asie, ça sera peut-être en Afrique. C'est probable que ça soit dans les pays pauvres et qu'ils viendront nous secouer les puces, nous dans les pays riches. Et on pense que derrière, ce qui est fondamental, c'est que dans ces révoltes, les travailleurs, ils aient leur propre direction. L'exemple de l'Afrique du Sud, c'est dramatique. Vous imaginez ce que ça voulait dire de sacrifice, les grèves, les combats, et l'armée y tirait. Pourquoi au final ? Pour que Cyril Ramaphosa, ancien syndicaliste des années 80, il se retrouve milliardaire à diriger un pays et à envoyer l'armée, les flics, pour tuer des dizaines de mineurs en 2012 à Marikana. Et ça, ça continue, c'est tous les jours. Donc ce qui est fondamental, c'est la direction. Et nous, on pense que c'est ça qui font qu'on commence. On veut commencer modestement, mais c'est fondamental de le faire pour l'avenir de l'humanité.